c'est la journée mondiale en faveur de l'Église persécutée. Alors j'ai préparé quelques pensées à ce sujet. Je voudrais vous entraîner à lire dans l'Évangile de Jean, chapitre 15, au verset 18, ce que Jésus dit. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Amen. On estime aujourd'hui, cela a été rappelé ces jours-ci, que 215 millions de chrétiens sont persécutés dans le monde. Plusieurs milliers de chrétiens meurent chaque année à cause de leur foi en Jésus-Christ. Qu'est-ce que la persécution ? C'est une tentative du diable qui vise à détruire l'Église. L'Église est constituée de gens qui ont échappé à son emprise au diable et proclament la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Et il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. L'Église, parce que le Saint-Esprit vit en elle, par son influence et par son message, elle s'oppose ici-bas aux œuvres du diable. Ce n'est pas les gouvernements, ce n'est pas les structures nationales ou internationales, l'ONU ou je ne sais pas quoi, qui s'opposent au diable, mes amis, qui est le prince de ce monde. C'est nous, les chrétiens. C'est nous. Et dans ce but, il veut détruire l'Église. Alors, il n'y parviendra pas, parce que Jésus a accompli son œuvre sur la croix. Alléluia. La Bible dit qu'il est mort pour réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Le but de la mort de Christ au calvaire n'est pas simplement de nous avoir sauvés individuellement, personnellement, mais au travers de son sacrifice, de susciter, de créer, n'est-ce pas, d'édifier son Église, dont nous sommes les membres, dont il est la tête, formant le corps de Christ. Il en est de l'Église le grand architecte, le grand constructeur, le grand bâtisseur. Dans Matthieu chapitre 16, il dira « Je bâtirai mon Église ». Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Donc, gloire à Dieu, même si le diable essaie de détruire l'Église, il n'y parviendra pas. Ça fait 2000 ans qu'il essaie, et il n'y parvient pas. Mais il multiplie les tentatives, et dans ce but, il se sert d'hommes qu'il manipule. Voyez, la parole de Dieu nous dit qu'en ce qui nous concerne, nous chrétiens, eh bien, nous n'avons pas à lutter, vous connaissez ce texte, je pense, de l'Épître aux Éphésiens. Nous n'avons pas à lutter, dit l'apôtre Paul, au chapitre 6 des Éphésiens et au verset 12. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà. Donc, il se sert, le diable, d'homme qu'il manipule dans ce but. Et bien sûr, quand nous apprenons que des frères, des sœurs, je ne sais pas moi, au Nigeria, au Soudan, en Érythrée, en Irak ou ailleurs, sont persécutés, sont violentés, sont agressés, sont emprisonnés, sont torturés, sont mis à mort, eh bien, je ne sais pas comment vous êtes, mais moi, ça me met en colère. Ça me met en colère. Et la tentation serait de concevoir à l'égard de ces gens-là, les persécuteurs en l'occurrence, de la haine, du ressentiment. Alors, la parole de Dieu nous demande d'avoir une autre attitude. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, il est dit qu'il nous faut même aimer nos ennemis et prier pour ceux qui nous maltraitent et qui nous persécutent. Ne pas oublier que nous luttons non pas contre des hommes, des persécuteurs, mais contre le diable qui les anime. Alors, la persécution, voyez-vous, eh bien, fait partie de l'histoire de l'Église. Tout au long des siècles, tout au long du parcours de l'Église de Christ, de l'Église fidèle de Christ, elle a eu à y faire face. On voit ça déjà dans le livre des Actes. Hein? L'environnement dans lequel vivaient les premiers chrétiens était souvent un contexte de persécution. Beaucoup des épîtres qui ont été rédigées par l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean, eh bien, ont été rédigées s'adressant à des chrétiens persécutés. Et aujourd'hui, eh bien, c'est encore le cas et s'accomplit, vous le savez, cette parole prophétique que Jésus a prononcée dans l'évangile de Jean quand il dit que viendra le temps où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et c'est ce qui se passe. Alors, quels sont les effets de la persécution? Généralement, on peut dire qu'elle ne détruit pas l'Église, je viens de le dire. Au contraire, bien souvent, elle stimule les croyants dans leur témoignage et permet le développement de l'Église. C'est paradoxal, mais c'est ainsi. L'accroissement du nombre de disciples de Jésus. Dans le livre des Actes des Apôtres, il y a eu la grande persécution à l'occasion de la mort d'Étienne. Vous vous souvenez? Le premier martyr de la foi, le premier qui est payé de sa vie, sa fidélité, au témoignage à rendre envers le Seigneur Jésus. Et la Bible dit qu'il y eut à cette occasion une grande persécution, tant et si bien que les croyants qui demeuraient à Jérusalem se sont dispersés. On aurait pu penser que c'était fini, voilà, l'Église allait être rayée de la carte. Mais non, pas du tout, pas du tout. Cette dispersion a permis la propagation de l'Évangile. Et la parole de Dieu nous dit qu'ils ont été en Samarie, Philippe, l'évangéliste, et puis à Chypre, et puis dans la Phénicie, jusqu'à Antioche, qui deviendra plus tard un centre missionnaire. Ainsi, voyez-vous, eh bien, l'Église n'a pas été détruite, anéantie, au contraire, elle s'est développée au travers même de la persécution. Au travers même de la persécution. C'est encore le cas de nos jours. C'est encore le cas de nos jours. Lorsque, en 1949, les communistes se sont emparés du pouvoir en Chine, ils ont expulsé les missionnaires étrangers et il y a eu une répression terrible contre les chrétiens. Terrible. Les bâtiments d'église ont été détruits. Beaucoup de pasteurs, de prédicateurs, de croyants ont été mis en prison, etc., etc. Et pendant des années, il y a eu comme une chape de plomb. On se dit, c'est fini. Certainement que là-bas, eh bien, tout est réduit à néant sur le plan spirituel. Mais lorsque la porte s'est, après la mort de Mao Tse-tung, non pas ouverte, mais entrouverte, et qu'à nouveau, eh bien, les chrétiens occidentaux ont pu avoir accès à ce pays, on s'est aperçu que l'Église n'avait pas été anéantie du tout. Au contraire, qu'elle avait prospéré. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, la Chine est en passe de devenir le plus grand pays chrétien du monde. C'est là où il y a vraisemblablement un nombre de chrétiens, on parle de 80 millions et plus encore, de croyants engagés envers le Seigneur Jésus. C'est la même chose en Iran, c'est la même chose même en Corée du Nord, un régime extrêmement répressif, mais malgré tout, les témoignages qui nous parviennent affirment que l'Évangile se répand et que le nombre des disciples augmente. Paradoxalement, ce fut quand la persécution cessa que l'Église commença à perdre de son dynamisme. En l'an 313 après Jésus-Christ, l'empereur Constantin a publié un édit, l'édit de Milan, en Italie. Et il donnait cet empereur droit à chaque sujet de l'Empire de pratiquer librement la religion de son choix. Donc, à ce moment-là, après 3 siècles de persécution plus ou moins incessante, la persécution a cessé. Certainement que les chrétiens ont dû se dire « Ouf, on est tranquille ». Mais c'est à ce moment-là que les choses ont déraillé. Pourquoi? Parce que l'empereur Constantin a, comment dire ça, fait mine de se convertir. Une pseudo-conversion, un semblant de conversion. Alors, il n'a pas obligé, tout au moins dans un premier temps, ses sujets à devenir chrétiens, mais l'empereur étant, entre guillemets, chrétien ou christianisé, il était de bon ton, pour ne pas avoir de problème, de devenir soi-même chrétien. Vous comprenez le raisonnement? Et de ce fait, des tas de gens qui n'étaient pas convertis de cœur, qui n'étaient pas nés de nouveau, qui n'avaient pas été régénérés par la grâce de Dieu, sont entrés dans l'Église avec une mentalité de païen, sans avoir été véritablement transformés par la puissance de l'Esprit de Dieu. Et c'est là qu'ont commencé tous les problèmes que l'on connaît, n'est-ce pas ? Toutes les doctrines tordues qui se sont introduites dans l'Église, l'adoration à Marie, le culte des saints, la prière aux morts, le célibat obligatoire des prêtres, etc., etc., etc. C'est paradoxal, ça. C'est au moment où l'Église, eh bien, n'a plus été confrontée à la persécution que les choses ont chaviré, mais dans le mauvais sens. Pour en revenir à nous, nous, chrétiens de France, et plus généralement chrétiens occidentaux, on peut dire que c'est certainement en partie tout au moins, parce que nous ne subissons pas de persécution violente que beaucoup de chrétiens dans les pays occidentaux ont si peu de ferveur. Ont si peu de ferveur. Le confort dont nous jouissons, la sécurité qui est la nôtre, la liberté dont nous bénéficions, et nous en rendons grâce à Dieu quelque part, ont eux-mêmes constitué pour certains un piège plutôt qu'un avantage. Un piège plutôt qu'un avantage. La persécution, quand elle vient, constitue un test de fidélité des croyants. Elle opère une sélection, j'oserais dire un tri, une épuration et en même temps un moyen de stimuler les croyants. Pas de secret, hein ? Quand la persécution vient, les chrétiens qui sont mi-figue, mi-raisin, plutôt figue que raisin, hein, soit ils se réveillent, ils sortent de leur torpeur, de leur zone de confort, ils retrouvent alors leurs ailes, leur dynamisme pour témoigner de Christ, s'attacher au Seigneur et le servir, soit alors, ils chancellent et renient leur engagement envers le Seigneur. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 13, au verset 20, le Seigneur Jésus donne la parabole du semeur. Vous vous rappelez cette parabole ? Il y a quatre terrains. Il dit que, pour certains, ils reçoivent la parole avec joie, voilà, avec enthousiasme, rapidement, voilà, ils sont enthousiastes, impulsifs, sentimentaux, émotionnés, et tout de suite, ils font profession de devenir chrétiens. Mais dira, Seigneur, pour certains d'entre eux, tout au moins, il manque de racines. Voilà. Une conversion à l'eau de rose, édulcorée et manquant de racines, lorsque survient, dit Jésus, Matthieu chapitre 13, versets 20 et 21, lorsque survient une tribulation ou une persécution, ils y trouvent une occasion de chute. Une question qu'on peut se poser, si la persécution, violente j'entends, sévissait au milieu de nous, qui d'entre nous, frères et sœurs, de vous, de moi, resterait fidèle au Seigneur? On mérite de se poser la question. Chacun doit s'interroger en disant, mais ai-je suffisamment, puisque Jésus parle de ça, ai-je suffisamment de racines? Mes racines sont-elles suffisamment profondes? Suis-je solidement enraciné dans la foi en Jésus-Christ, dans l'amour de Dieu, dans la communion avec le Seigneur? Ma communion justement avec le Seigneur est-elle ferme, vigoureuse, intense? Ou alors est-ce qu'elle s'est étiolée avec le temps? Est-ce que je me préoccupe de plaire au Seigneur et d'obéir à sa parole, de marcher comme nous l'avons entendu dans la sanctification? Si je n'ai pas de racines, quand la persécution viendra, si j'en reste là, je risque fort d'être balayé comme un brin d'herbe par le vent violent. C'est pourquoi, dès maintenant, il ne faut pas attendre que ça vienne, c'est dès maintenant, frères et sœurs, qu'il faut s'engager dans une piété authentique et dans un attachement de cœur à Dieu. Et constamment, dans les prophètes de l'Ancien Testament, comme dans les textes des apôtres du Nouveau Testament, il y a cette invitation adressée aux païens, aux pécheurs, aux incroyants, certes, mais aussi à ceux qui font profession d'être chrétiens. Le retour à Dieu, retournez, tournez-vous vers le Seigneur, et vous serez sauvés. Dans le livre de Job, il dit « Attache-toi à Dieu, jette au caillou du torrent l'or le plus fin, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. » C'est-à-dire, ne t'attache pas au bien matériel, il ne s'agit pas de jeter l'argent par les fenêtres, c'est une manière de s'exprimer, mais attache-toi à Dieu, attache-toi à Dieu. Et oui, quand la persécution vient, c'est Christ qui continue de souffrir au travers de son peuple. Quand Jésus s'est révélé à Paul, qui était un persécuteur à l'origine, il s'appelait Saul de Tarse, rappelez-le ce que Jésus a dit. Saul, Saul, pourquoi ? Me persécutes-tu ? Voilà. Et plus tard, quand il deviendra le grand apôtre Paul, dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 1, verset 24, il dira « Ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en mon corps pour l'Église. » Autrement dit, au travers des persécutions que Paul subit en tant que croyant, en tant qu'apôtre de Christ, c'est Christ qui continue de souffrir parce que nous sommes membres de son corps. Parce que nous sommes membres de son corps. Disons aussi ceci, c'est que la persécution sera suivie de grandes récompenses dans le royaume de Dieu pour ceux qui l'auront supporté vaillamment. S'adressant dans l'Apocalypse à l'église de Smyrne, qui allait passer par un moment où elle aurait à subir la persécution de la part des opposants, le Seigneur Jésus lui dira « Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. » Sois fidèle jusqu'à la mort. Voilà, dans l'évangile de Matthieu, dans la liste de ce qu'on appelle les béatitudes, eh bien le Seigneur Jésus a explicité les choses en disant « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera. » Seigneur, j'ai du mal à comprendre ça. « Lorsqu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » C'est à ça qu'il faut s'attendre. N'attendez pas des fleurs de la part du monde, l'approbation de votre profession de foi. Non. « Lorsqu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » Réjouissez-vous, dit Jésus. Il ose dire ça. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Eh oui, c'est toujours le but final, on en parlait tout à l'heure. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Elle se présente, la persécution, je vais terminer bientôt, sous diverses formes. Persécution familiale. Déjà, le prophète Jérémie, le Seigneur lui dira, « Mais regarde, même ceux de ta famille, tes frères et ceux de ta maison, crient derrière toi. » Voilà, ces gens du village de Natoth, dont Jérémie était originaire, sa famille, ses frères, ses proches, eh bien, le traitaient comme un chien, j'allais dire. Certains la subissent, la persécution familiale. Une épouse, un mari, un frère, une sœur, un père, une mère, ils s'opposent. Avec hostilité à notre foi. Qu'est-ce que tu vas faire encore là-bas? T'as qu'à t'y installer, hein, n'est-ce pas? Voilà. Et oui, il y en a au milieu de nous qui vivent ça. Dieu le voit, frères et sœurs. Et plutôt que de vous affliger, réjouissez-vous en disant, le Seigneur me récompensera si je lui reste fidèlement attaché. Persécution de membres d'autres religions. Hein? Les Juifs s'opposaient au message de l'Évangile dans le livre des Actes. Aujourd'hui, les chrétiens dans le monde sont persécutés par les musulmans, dans d'autres pays par les hindouistes, dans d'autres pays par des bouddhistes. Vous savez, le bouddhisme, c'est la paix, c'est le Dalai Lama, ta, 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 ta. Mais c'est de la blague, ça, mes amis. C'est la poudre aux yeux. Ce qui est vrai, c'est que dans les pays où le bouddhisme domine, les chrétiens sont persécutés par ces soi-disant hommes et femmes de paix. Vous voyez, le diable, il se déguise en ange de lumière. Vous parlez. Hein? Persécution par les autorités civiles. Paul a aussi connu cela, n'est-ce pas? D'ailleurs, c'est sur l'ordre de l'empereur Néron que Paul a subi le martyr. Il en est question dans le deuxième livre, deuxième épître à Timothée. Alors, en ce qui nous concerne, nous jouissons d'une liberté appréciable. C'est vrai. Quoique, certains indices font supposer qu'on voudrait l'encadrer étroitement, notre liberté, voire la limiter. Cette liberté relative durera-t-elle? Il y a des évolutions inquiétantes. Dans la ville d'Andai, savez-vous où c'est Andai? Hein? Dans le sud-ouest, à l'extrême sud-ouest, voilà, à la frontière espagnole, hein? Bayonne, Biarritz, Andai. L'Assemblée de Dieu de Biarritz avait trouvé un local, était sur le point de l'acquérir pour voilà, en faire un lieu de réunion, et le voisinage s'y est opposé. Et le projet a été arrêté. Vous voyez, donc, il y a des choses quand même qui nous font réfléchir, qui nous font réfléchir. Ne pensons pas que nous sommes définitivement à l'abri et que nous ne risquons plus rien. La liberté nous sera conservée jusqu'au retour du Seigneur. Non. Ça peut chavirer dans l'autre sens, d'un moment à l'autre. C'est pourquoi nous devons nous tenir prêts. Et puis, même sans parler de persécutions violentes, agressives, il y a dans nos pays occidentaux, dans nos démocraties, disons comme ça, une persécution plus insidieuse, sournoise, subtile, non pas physique, mais elle s'exerce par les pressions que nous subissons en tant que chrétiens. On voudrait, quand je dis « on », la société en général, les autorités, les médias, quoi, on voudrait nous faire renoncer à nos valeurs, à nos principes moraux qui sont, nous le savons, nous, conformes à la parole de Dieu. La pureté des mœurs, la fidélité dans le cadre du mariage, la sexualité dans le cadre exclusif du mariage, toute pratique autre étant aux yeux du Seigneur, selon sa parole, illégitime. Mais on veut nous faire croire que parce que nous pensons comme ça, nous sommes des gens, comment dire, intolérants et même dangereux, qu'il faut combattre, auxquels il faut s'opposer. Je ne sais pas si vous avez l'oreille ouverte et les yeux ouverts également, mais regardez dans les journaux, écoutez la radio, les infos à la télé, et vous verrez que les valeurs morales qui sont les nôtres et que nous prenons sont ridiculisées la plupart du temps. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il y a déjà un certain nombre d'années, sur un plateau de télévision, le thème était, j'en ai parlé il y a quelque temps, le sida. Et le moyen de se préserver de la contamination. Et il y avait là un ecclésiastique, peu importe le bord duquel il était, il a dit quelque chose de sensé en disant, mais le meilleur moyen de se préserver du sida, c'est d'être fidèle en amour, d'être fidèle dans le cadre du mariage. Mes amis, qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Il s'est fait huer par l'auditoire. Oui, c'est une forme de persécution. Nous pourrions être tentés de, excusez-moi l'expression, elle est un peu triviale, de la mettre en veilleuse, de dire, puisque c'est comme ça, on va faire profil bas. Non, mes amis, sans être agressif, surtout pas, sans être virulent dans nos propos, notre comportement, il nous faut affirmer ce que la parole de Dieu affirme. Et oser continuer à le proclamer et à le vivre au grand jour. Et tant pis si on nous traite d'intolérants, de dangereux, de vieux jeux, de je sais pas moi, d'homophobes, de racistes et de tout ce que vous voulez. Non, nous nous en tenons à ce que la parole de Dieu. On voudrait nous empêcher, vous parents, d'éduquer nos enfants selon l'éthique et la morale chrétienne. C'est pour ça qu'il faut qu'à la maison, les choses soient remises d'aplomb et qu'on enseigne ce que la parole de Dieu enseigne en ce qui concerne la vie de tous les jours. Voilà. Hein? Alors, résistons, tenons ferme contre cette persécution insidieuse. Insidieuse, vous voyez? Comment tenir ferme? Eh bien, l'Épître aux Romains nous le dit, chapitre 12, verset 1, il dit, voilà, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et le texte ajoute, vous le lirez, hein, Romains chapitre 12, versets 1, 2 et 3. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. On voudrait tordre notre intelligence. On voudrait nous influencer dans le mauvais sens. Eh bien, il faut lutter contre cette influence pernicieuse. N'est-ce pas ? Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il ne s'agit pas simplement de l'intelligence cérébrale. Ça n'a rien à voir avec être bon en mathématiques ou en littérature. Non, c'est l'intelligence spirituelle. Renouvellement de l'intelligence, afin que vous soyez discerniers quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon à ses yeux, ce qui est agréable pour lui et ce qui est parfait pour lui également. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous laissez pas influencer. Ne vous laissez pas emporter par ce courant qui domine le monde et qui est une forme de persécution contre les chrétiens. Enfin, je finis, c'est promis. Ça fait deux ou trois fois que je finis, mais ce coup-là, c'est vrai. Hein. La persécution, elle permet d'exercer la solidarité entre chrétiens d'un pays à l'autre ou d'un continent à l'autre. Aujourd'hui, nous avons des moyens de communication. Vendredi soir, pour ceux qui étaient là, nous avons eu un frère qui venait de l'Est, de l'Afrique ou de l'Afrique de l'Est, comme vous voulez, qui a vécu la persécution. Et dans son pays, dans les pays tout alentour, on vit ces choses-là, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? La parole de Dieu nous le dit dans l'Épître aux Hébreux. Je pense que vous connaissez ce texte, il a souvent été cité. Permettez-moi de vous le citer à nouveau. Dans Hébreux chapitre 13, verset 3, il est écrit « Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez aussi prisonniers, comme si vous étiez aussi prisonniers. » Essayons, je ne sais pas si c'est possible, on peut tenter, de dire « Tiens, ce matin, si tu n'étais pas là avec tes frères et sœurs, dans une salle bien chauffée, confortable, et si tu étais au fond d'une geôle infâme, il y a les rats qui courent dans les coins, les cafards sur les murs, vous mourrez de faim et de soif, et en plus, la porte s'ouvre de temps en temps pour qu'on vienne vous cogner dessus. Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez aussi prisonniers de ceux qui sont maltraités comme étant vous-même dans un corps. » En tant que chrétien, on doit manifester de la compassion à l'égard de nos frères et sœurs chrétiens qui sont persécutés. Et ce n'est pas une compassion, comment dire, larmoyante ou sentimentale. Non, elle doit nous pousser à l'action. On pourrait dire, mais qu'est-ce que je peux faire ? D'abord, je peux prier. Alléluia. Et la prière, c'est une puissance. Amen. L'Écriture dit que la prière fervente du juste, celui qui a été justifié par Christ, elle a une grande efficacité. Je lisais vendredi soir à ceux qui étaient là pendant des années, peut-être les plus anciens s'en souviennent. Nous avons prié pour les pays de l'Est. Rappelez-vous ça, moi j'avais 19 ou 20 ans à l'époque. On a prié pour ces chrétiens là-bas en Russie, en Tchécoslovaquie, en Pologne, je ne sais plus, en Allemagne de l'Est, qui étaient dans des conditions effroyables. Rien ne semblait bouger. Et puis un jour, patatrac, ce qu'on appelait le rideau de fer s'est écroulé. Le mur de Berlin également, et les chrétiens de ces pays, eh bien, ont recouvré leur liberté. La prière fervente du juste, elle peut beaucoup. Prions non seulement pour que les situations changent, mais prions aussi pour que dans la tourmente, nos frères et sœurs puissent se tenir bon. Alléluia! Qu'ils restent fidèlement attachés au Seigneur et qu'envers et contre tout l'Évangile fassent des progrès et que des âmes soient sauvées, comme c'est le cas dans bien les... Et puis, nous pouvons agir par notre libéralité et par le soutien matériel. Nous avons, dans le cas des assemblées de Dieu, ce que nous appelons l'action évangélique de Pentecôte, et régulièrement, sachez-le, n'est-ce pas, une partie des offrandes de l'Église sont consacrées au soutien de l'AEP qui permet eh bien, l'aide en faveur des chrétiens persécutés. Il y a des pasteurs qui vont sur place pour les soutenir, pour les encourager, pour leur apporter des Bibles, pour leur apporter une aide matérielle aussi. Et c'est important de considérer ces choses-là. Alors, voilà, ça c'est ce que nous enseigne la parole de Dieu. Nous ne devons pas oublier. Hein. Il est écrit là, souvenez-vous des prisonniers. Voilà. Est-ce qu'on peut dire, Seigneur, eh bien, on va prier. On va prier peut-être plus que ce que nous l'avons fait jusqu'à ce jour. Hein, c'est vrai, j'ai mes besoins personnels, ma famille, mon foyer, mes enfants, etc., ma santé. Certes, Dieu s'en désintéresse pas, mais je ne veux pas oublier mes frères et sœurs qui sont à l'autre bout du monde et qui vivent des situations effroyables. C'est là ce que nous allons faire, s'il vous plaît, sans plus tarder. Que Dieu soit béni. Notre Père.